Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite des informés 19h-20h qu'on pourra retrouver dès demain en ce début de semaine, lundi 4 mars. Et oui, place à Time Sport avec toute son équipe, justement, la quotidienne sportive sur l'antenne de Beurre FM, votre radio, chers auditeurs et auditrices. Au programme de cette émission, on va parler de quoi ? De l'Olympique Lyonnais qui rechute malheureusement face au Sang et Or à Lens hier soir dans son entrequet, l'Olympique Stadium, si on peut l'appeler comme ça, ou le Groupama. On parlera aussi de Marseille qui cartonne pour le plus grand plaisir, de tous les amoureux du football en France et de cette Ligue Ibérique, cette Ligue des Talents. Ouais, c'est un peu de la moquerie, hein, je taquine un peu tout le monde. Et aussi, on parlera, pour terminer cette émission, mais ça sera une large page, une grande page dans cette émission, Mbappé, le PSG, le réel divorce. C'est la question que l'on se pose justement. Rien que pour vous, le débat du jour, on vous l'expose. Cette équipe de Marseille peut-elle prétendre à une place européenne? Voilà, le 0153483000. Sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Il est pour parler.
Allez, ce soir, autour de la table, on va retrouver qui ? On va retrouver tranquillement, on aura HD, on aura aussi Augustin. Bonsoir Augustin.
Bonsoir, comment ça va, Augustin ? Bonsoir à toutes et à tous.
Tu vas bien ? Ah ben, tranquillement, en face d'Augustin, on va pouvoir apercevoir Moha. Comment ça va, Moha ?
Ça va très bien, Bilal.
Tranquillement ?
Tranquillement, ouais, début de semaine sur Beurre FM, toujours c'est très vrai. Bien.
Ça va, il fait pas trop froid en ce moment.
Non, ça va mieux.
Ouais. On a eu du beau temps en tout cas.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Comme d'habitude. Et d'un, ça c'est
positif, mon oncle.
Aïe. Il faut aller le chercher aujourd'hui le soleil. Hein. Ouais, mais ça fait rien. Comme
il
d'habitude.
Il est dans nos cœurs.
Il est dans le cœur. Ouais, dans nos cœurs. Mais ça, c'est très très bien. Surtout par les temps qui courent. Hein. Tout nouveau avec nous sur l'antenne de Beurre FM, c'est Karim. Bonsoir Karim pour cette première. Comment ça va Karim ?
Bonsoir Bilal. Ça va très très bien et merci pour l'invitation. Très content, très très honoré d'être sur Beurre FM et de parler de sport.
Eh ben voilà. Merci de l'avoir honoré, cette invitation. Et Karim, juste en face, on va retrouver, c'est notre réalisateur, c'est Solal qu'on pourra entendre aussi et avoir en réalisation avec Vanessa, 21h-23h, on n'oublie pas. Bonsoir Solal.
Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien, chers amis. Très content d'être encore une fois de plus ici avec une équipe de talents.
Ouais.
Et ça me fait plaisir d'être aussi avec des talents, tout comme toi, Bilou, à l'animation.
Bah non, comme
on
toi
me dit
aussi.
Dans l'oreille gauche que...
Exactement.
Que HD a beaucoup plu, en tout cas ses chroniques ont beaucoup plu, qu'on a pu passer récemment. On l'a eu
HD, on va parler de badminton avec HD.
Et ce serait cool de le voir dans le studio prochainement. Magnifique. HD.
Il est avec nous ce soir en tout cas.
Mais
HD.
Non, c'est vrai.
Ouais, il est avec nous. HD est avec nous.
C'est de la haute définition.
Voilà, c'est ça, de la haute définition. C'est son nom de signataire, d'articles et de reportages en tout cas. Il est avec nous ce soir HD. On va parler de badminton. Un petit clin d'œil du côté de Milan, dans la région lombarde, en Italie, c'est Moussa. Moussa qui est là à donner un peu les petites infos concernant ces championnats du monde, qualification pour les JO. C'est bien ça, HD, concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024. En tout cas, il nous fait vivre cela sur les réseaux sociaux et pas que. Un petit clin d'œil donc à Moussa. Bonsoir, HD, comment ça va ?
Ça va
tranquillement,
Très très belle soirée hier en NBA, donc l'énergie la NBA pour commencer
aussi.
La semaine.
La NBA, pas que, la fin ce week-end aussi.
Il y a eu la fin aussi.
Le foot, le rugby à 7.
Le rugby à 7, c'est pas mal, le rugby
pas
à
mal,
7.
Hein.
Oui, vraiment, c'est pas mal. Et là aussi, il y a eu, ça a été assez riche. Hein. Boula n'est pas avec nous ce soir, malheureusement. On pense à lui. Hein.
On pense à lui.
D'habitude, il est avec nous chaque lundi, mais ce soir, il n'est pas là. Oui, Augustin, je sais pas, des petits clins d'œil, Augustin. Tu as l'impression de vouloir dire beaucoup de choses ce soir.
Ça
fait sourire carré.
Je trouvais qu'on avait une journée de championnat assez sympa, vraiment du spectacle. Pour moi,
il y a eu des buts,
il y a eu des beaux arrêts d'ailleurs de gardiens.
Ouais.
Il y a eu un soporifique Paris-Monaco qui m'a un peu navré, surtout pour ceux qui ont payé l'abonnement.
Il y a des supporters parisiens qui nous ont dit que c'était un peu lunaire aussi. Hein.
C'est un peu lunaire, se passe.
On va revenir avec moi.
On ne sait pas ce qui se passe à Paris.
On ne sait pas.
Je pense que l'institution va trinquer.
Trinquer, mais en tout cas, Paris est bien là. comparé à d'autres clubs.
Paris est bien là.
Oui, bien sûr. Paris est dans toutes les coupes, que ça soit coupe européenne, coupe de France. Et oui, il y a aussi les cheveux qui partent dans tous les sens, mais en tout cas, on est bien là. Oui, je suis pas allé chez le coiffeur. Désolé, Solal. Ouais. Peut-être un petit mot concernant l'Olympique Lyonnais avant de revenir sur Paris. Paris, c'est la large page de cette émission.
L'Olympique Lyonnais, Bilal, c'est
malheureusement
dommage.
Défaite.
Mais c'est pas gravissime. Ça symbolise pas. Pour moi, la fin de cette très belle lancée qu'avait l'équipe de Sage, faudrait pas les réduire à ça. Je pense que l'absence de Lacazette a un peu pesé pour les Lyonnais. Mais pour moi, c'est pas une manière. Ça va pas permettre d'enterrer les Lyonnais aussi vite, qui font une superbe remontée au classement. C'est vrai qu'ils sont encore à 5 points du barragiste, que c'est encore un peu flou.
C'est encore un peu poussif. Hein,
encore un peu poussif, mais pour moi, l'enchaînement de matchs était beaucoup trop positif et sur une très bonne lancée pour les réduire à une simple défaite.
C'est symptomatique de ce qui se passe avec Lyon, si je puis me permettre. C'est que Lyon a du mal, par rapport aux grandes équipes du haut du classement, a du mal à sceller son match, à créer du jeu, à structurer son jeu. Et quand on voit le match par rapport à Lens hier, pardon, mais il y a quand même un cran au-dessus. Une division au-dessus, je dirais, entre Lens et Lyon, malheureusement. Parce qu'on aimerait tous que Lyon, même si on n'est pas supporter de Lyon, soit dans les 5 premiers. Voilà, comme Marseille dans les 5 premiers. Je pense que Lyon est encore un peu en convalescence. Et je pense que ça, vis-à-vis des dernières journées, où il en reste 14, je crois, ils vont souffrir quand même un peu. 10, pardon, autant pour moi. 10,
encore, hein.
Oui, il y a 30.
Avec les 18 30, les équipes,
ouais. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, par là. Je pense qu'ils vont un peu galérer. Ils préparent l'année prochaine.
Oui, Karim, justement, l'Olympique Lyonnais. Bah, on le voyait bien partir.
Bah, par rapport à l'OL, ouais. En fait, il y avait une classe d'écart parce que l'équipe en soi, c'est une équipe européenne. Avec un entraîneur qui est expérimenté. Et là, on a vu que par rapport à l'expérience, la tactique, etc., Lens ont bien joué le coup. Ont laissé venir les Lyonnais dans leur camp. Et après, c'était
en bloc bas.
Et ça procédait en contre de la part des Lensois. Et effectivement, dans ce registre-là, Lens, c'est une pas mal équipe quand même.
Ouais. Ils vont bien finir, je pense.
Les Sangayors. À Lyon, ouais, ça terminera bien. On espère HD. C'était bien revenu en tout cas.
Oui, finalement. Après, Lens a des degrés moindres, mais a eu aussi un début de saison compliqué.
Oui. Aussi.
Donc c'est une équipe aussi qui est peut-être un peu plus bas que ce que vaut réellement. Enfin, je veux dire, quand on regarde Lens dans le jeu, c'est une équipe qui pourrait jouer le podium. Ils sont un peu en dessous. Et le fait est que Lyon, quand ils avaient battu Monaco, il y avait eu un peu un côté exploit, c'est-à-dire qu'ils avaient arraché la victoire, mais sans forcément produire du jeu. Qui fait qu'on a envie de se dire que Lyon peut être dans un top 5, top 6. Donc pour moi, ce match-là, il replace Lyon là où ils sont. C'est-à-dire que c'est une équipe de milieu de tableau, mais qui n'a pas forcément le coffre pour, dès cette année, aller chercher l'Europe.
Et moi, je veux juste rejoindre HD, parce qu'on avait un peu les prémices avec le match en Coupe de France de Lyon avec Strasbourg. Ils ont fait 0-0 en 90 minutes de jeu.
Ouais,
après, ça allait en prolongation. Et oui, faut pas être trop indulgent et trop sévère et strict avec l'OL actuellement. Ouais. Ils sont en pleine reconstruction.
Ouais.
C'est pas une jeune équipe non plus. Ouais. Mais il y a un nouveau cycle qui est en train de se préparer. Et oui, il faut être indulgent quand même avec cette équipe lyonnaise quand même.
Réaction à la suite de Karim.
Ouais, tout à fait. Mais c'est un très bon point, parce que justement, pour revenir sur cette réaction à choc qu'on a eu par rapport au début de saison, pour les citer, Alisson, Benji et moi-même, constations les dégâts de Lyon et pensions même qu'ils allaient finir en Ligue 2 beaucoup rapidement que ce qu'on pensait. Mais en fait, petit point, petite ouverture par rapport à ce club de Marseille, c'est bizarre, mais dans mon inconscient, en fait, Marseille, pour moi, ça fait des années qu'ils y sont plus, qu'ils y sont pas, et en fait, on a peut-être une petite tolérance parce que c'est un club, un Olympique qui est peut-être un peu plus prestigieux de par son étoile que l'Olympique lyonnais. Mais pour autant, je trouve que cette équipe lyonnaise revient bien de derrière les fagots, et moi, j'ai plus du coup cette image que j'avais pu avoir en réaction à chaud, qui est Lyon, c'est fini pour la saison prochaine, ils seront en Ligue 2, ça y est, relégué, etc. Et ben écoutez, contrairement à ce que j'aurais pu dire en début de saison, et je suis le premier à être surpris, comme quoi, il y a que les,
Marques
qui reviennent pas sur leur,
un peu les idiots.
Mais, je trouve que Lyon, malgré tout, a peut-être l'occasion l'année prochaine de faire quelque chose de plus grand que ce qu'il essaie penser.
Ça
en
peut
début
pas
de
être
saison.
Pire en même temps.
Ouais, Augustin.
Après, je sais pas, mais ce que dit Solal en disant, alors je sais pas ce qui se dit, pourquoi ça fait des années que Marseille, ce que disait Solal, et je sais que ça infuse dans ce discours, pourquoi Marseille galère depuis ces dernières années? Pardon, Marseille ces dernières années, c'est deuxième et troisième respectivement. C'est dans votre tête, dans votre inconscient que vous pensez que Marseille galère ces dernières années. C'est juste sportivement cette année. C'est juste sportivement cette année. Alors, donc là, il joue contre le Villarreal.
Ce jeudi. On va revenir sur Marseille, on a le temps. Hein.
Moi, je pense qu'ils peuvent finir en tronc, Marseille, cette année. Vous verrez bien.
Là, c'est Lyon. Allez, on revient avec Moha.
La différence entre. Juste sur Marseille, c'est une équipe victime de son succès tout autant que Paris. C'est une équipe qui.
Populaire.
Qui est, au-delà d'être populaire, a une saison qui sera forcément symbolisée par son succès ou non en Europe. Tout simplement. Donc, deuxième et troisième, c'est du factuel. Par contre, Marseille, qui est dans le ventre mou ces dernières saisons, si on prend une grande fresque comparée à Lyon. Lyon qui se classe un peu mieux sur les 10 dernières années que Marseille. On n'a jamais vu.
Je pense qu'à match.
Mais oui, peut-être. Mais
je pense qu'à match. C'est on n'a jamais vu. Années, en tout cas,
on n'a jamais vu un gros de Ligue 1 en dehors de l'AS Saint-Etienne se retrouver dans une situation aussi critique et aussi proche de la falaise, je dirais, que l'Olympique Lyonnais. C'est là où le parcours et la renaissance, elle paraît un peu plus incroyable et c'est une belle histoire.
Ouais, bien sûr.
Mais comme vous le disiez, je rejoins Karim, l'équipe lensoise, elle avait des certitudes dans son jeu qui étaient beaucoup trop claires pour avoir une équipe lyonnaise encore jeune et, comme je l'ai dit, amputée de son général Lacazette pour pouvoir se permettre quelconque espoir face à des Lensois qui ont joué l'Europe, qui ont joué des équipes, je pense à Arsenal, je pense au PSV Eindhoven, même si c'était un peu plus compliqué face aux Hollandais. Du coup, non, et comme je dis, ça n'entache pas forcément le bilan de Sage, ni cette lancée de l'Olympique Lyonnais. Il faut juste leur laisser du temps, que ce soit à eux ou à Marseille.
Oui.
Alors, Karim. Oui, HD.
Et après, non, juste pour sur la comparaison avec Marseille, pour moi, Lyon, l'enjeu cette année, il n'est pas sportif.
Oui,
bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de propriétaire, et dans toutes les équipes, que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons, il y a d'abord pour Lyon, l'enjeu, il est que cette transition. Elles se traduisent pas par un déclin, on va dire, de Lyon durable. On l'a vu pour d'autres clubs, par exemple un club comme Bordeaux où ça s'est très très mal passé. Lille, il y a eu aussi quelques turbulences. Donc pour moi, l'enjeu pour un club comme Lyon, vu le travail qui a été fait ces 10 dernières années, c'est s'assurer que l'héritage d'Olas, en gros, ils sont entre de bonnes mains. Donc ça fait passer le sportif au deuxième plan.
Toujours qualifié en Coupe de France, faut le rappeler.
Oui, mais très clairement, on est quand même, par rapport à ce qu'on a vu de Lyon ces 10 dernières années, même les mauvaises années de Lyon, c'était une équipe qui était capable sur un match de déstabiliser n'importe quelle équipe. Cette année, on est un cran en dessous, mais c'est parce que la réalité du club, elle est différente par rapport à ce qu'on a vu ces dernières
années. Toutes les vicissitudes que le club a connues.
Ouais.
Après, ça serait on va dire, que Lyon finisse dans les 10 premiers, ça serait vraiment bien. Je pense que je veux dire dans les 10 premiers, c'est-à-dire plus proche des 10 que des 1, du 1, bien sûr. Bien sûr.
Ouais.
Oui, vu l'ensemble de l'œuvre cette année, deux changements d'entraîneur, des changements de jeu, des changements de structure de jeu, de rythme de jeu. Je pense qu'il prépare l'année prochaine.
Ouais. Après, Bilal, il faut être pragmatique.
À la faveur de leur recrutement du mercato de cet hiver.
Qui a été très très bon. Par rapport à la Coupe de France, ça peut pas. J'imagine mal les Lyonnais trouver. En la Coupe de France, une porte de sortie vers l'Europe.
Ouais,
sachant les gros qui les attendent. Et je pense même pas au Paris Saint-Germain, je pense juste au Rennais aussi.
À Rennes.
Qui sont une équipe qui est un peu plus solide que les Lyonnais.
Un grand club de Ligue 1, bien évidemment.
Ouais. Et avoir ces deux mastodontes qui vont sûrement s'affronter en demi-finale, ça risque d'être compliqué pour les Lyonnais. On va savoir. Du coup, il faut voir sur plus le championnat.
Avec ce championnat, ils peuvent se retrouver quatrième, Lyon.
Alors, Karim, pour toi, Karim, avant de terminer avec Solal.
Mais honnêtement, les amis, est-ce que ici, nous, autour de la table, on pensait à un 3-0 pour Lens hier au Groupama Stadium. Je pense pas.
Non.
Mais moi, j'ai été un peu choqué par
Lyon, la dynamique de Lyon, c'était impensable.
Et voilà. Et ça serait peut-être un signe contraire et un signe négatif de dire que Lyon a mis 3-0 à Lens. Ça aurait pu montrer les quelques défaillances de la Ligue 1. Mais non, la Ligue 1, faut la respecter. Il y a des équipes comme Lens qui ont fait le job. On va dire qui ont essayé de faire le job en Ligue des Champions. Et en Coupe européenne, ça n'a pas marché, mais quand même, il y a un travail chez les Lensois. Il y a un coach Franquès qu'on entend parler de l'autre côté de la Manche. Donc, c'est pas n'importe qui, Lens.
Justement, c'est pas n'importe qui. Ça, on gardera un œil de près. C'est promis, Karim. Solal,
merci.
On termine avant de revenir sur Marseille.
Bah, bon, pour expliquer un peu aussi un truc qui me tient à cœur, c'est que bah, ce Lyon-là, il est dans un moment post-traumatique d'un effet doudou, d'un règne d'Olas. Ouais. C'est quand même rare dans cette Ligue 1 d'avoir eu des cadres. Et c'est justement sur ce point-là que j'aimerais rebondir de moi. C'est vrai que voilà, Olas a conforté Lyon et surtout grâce à cette personne, l'Olympique Lyonnais a pu ruisseler sur l'Europe, que ce soit à travers des matchs aussi bien féminins que masculins. Et c'est pour ça que là, bah écoutez, cet Olympique Lyonnais se retrouve un peu à devoir se dire, ok, maintenant, bah je vais devoir dormir sans des espèces de doudou. Et c'est sûr que ça va prendre du temps. Par rapport à Marseille, le seul truc qui moi me conforte dans ce truc-là, c'est que Marseille, les derniers matchs, justement pour la comparaison, qu'ils ont en référence en Ligue des Champions, tout simplement, bah ça remonte à l'époque où bah j'avais pas de poils sur la barbe ou etc. Alors que Lyon a des matchs références, a quand même des prises assez proches du pied au cas où ils doivent se dire bah les gars quand même ça remonte à pas si longtemps que ça bah notre gloire entre guillemets européenne, bah cette modeste échelle qui est ce club de Lyon depuis des années. Donc pour ça aussi que je continue d'expliquer ce propos là qui est pour moi de dire que l'Olympique Lyonnais a moins de mal en tout cas à se relever ou à se faire voir à l'européenne.
Karim, pour
juste
terminer,
dernière chose avant par rapport
la
à
première pause, on t'écoute.
Et heureusement qu'ils ont trouvé un monsieur comme Pierre Sage qui fait un travail inconditionnel. En fait, pour moi, il vient du foot amateur et il a en fait ces codes que ces joueurs professionnels des fois oublient parce qu'ils sont professionnels, ils oublient d'où ils viennent, ils oublient qu'il y a un monde amateur avant. Et ce Pierre Sage, pour moi, il est la clé dans le futur de leur saison. Je pense que c'est un bon point pour l'Olympique Lyonnais.
Apparemment, ils chercheraient un grand nom pour entraîner l'année prochaine quand même.
Ouais.
Ils chercheraient au conditionnel.
Tout le monde cherche des grands noms. Ouais, on va revenir avec le badminton du côté de l'Adidas Arena à Paris, sans oublier aussi l'Olympique de Marseille. Restez à l'écoute de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 18 minutes, avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h, en ce lundi soir, début de semaine. On est avec Karim pour sa première, sans oublier HD. Moha et Augustin sont de la partie. Allez, place avant l'Olympique de Marseille, on va parler un peu de badminton.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, ça fait sourire, Moha. Eh ben, on avait fait une partie avec Moha, Vivien et moi. Eh oui, du côté de Paris, les Yonex internationaux de France débarquent donc à l'Adidas Arena. Ça fait plaisir. Pas que du foot. Pas que du foot. Badminton.
Bien sûr, bah, les Jeux Olympiques approchent, Bilal. Donc, progressivement, il faut aussi qu'on intègre un peu ces sports dans nos débats.
On va en faire venir aussi, et sur ce plateau.
Le badminton en fait partie, puisque c'est un sport olympique depuis les Jeux de Barcelone, 92. Donc voilà, donc on en parle aujourd'hui, puisque le tournoi de Paris qui débute demain est un des 10 plus grands tournois.
Du 5 au 10 mars.
Exactement, c'est un des 10 plus grands tournois au monde aujourd'hui de badminton. C'est un peu le même système qu'au tennis, il y a un peu le grand chelem, avec des tournois qui sont principalement en Asie. Et après, il y a l'équivalent des Masters 1000, donc ce qu'ils appellent les Super 750 en badminton, voilà, pour les connaisseurs. Et donc, l'Open de Paris fait partie de ces Super 750. Donc, il débute demain à l'Adidas Arena, qui a récemment été inaugurée. S'il y a des supporters de basket parmi nos auditeurs, ils ont pu découvrir cette arena.
Ah, bien, ouais.
Ah, je sais.
Je crois qu'ils ont été déjà.
C'est un sport qui gagne à être connu. Moi, j'en fais à titre perso dans un club.
Badminton. Ouais. C'est sympa, le badminton.
Il y a 130 000 licenciés. Il y a quasi une parité entre. Il y a 40% de femmes et 60% d'hommes. Donc, c'est de plus en plus de. C'est très sympa.
C'est sympa.
C'est un sport très physique, très foncier. Aussi. Et franchement, je dis, il y a plein de clubs de quartier dans les petites villes, dans les arrondissements ici, où vous pouvez en faire à tout niveau.
Ouais, une nouvelle dynamique en France concernant le badminton.
C'est ça, parce que même les derniers chiffres qui ont été annoncés, c'est autour de 200 000. Donc c'est une fédération.
200 000 licenciés.
200 000.
Il y en avait 130 il y a quelques années.
C'est ça. Donc c'est. Alors ça augmente, là, visiblement, après le Covid, il y a eu un effet de rattrapage. Donc c'est à peu près dans les mêmes eaux que ce qui existe pour le tennis de table en France. Donc c'est deux sports qui sont dominés par l'Asie. Très clairement, c'est la Chine, la Malaisie, même si chez les garçons, il y a le Danemark aussi qui est une place forte du badminton au niveau international. Et en gros, la France essaye de rattraper son retard, c'est-à-dire essayer de sortir de cette image d'un badminton qui serait un peu un sport de plage, un sport qu'on fait pour le plaisir, mais où il n'y a pas forcément une dimension de compétition. Et là, depuis quelques années, il y a eu une nouvelle génération de joueuses et de joueurs de badminton qui émergent. qui ont des résultats en junior mais qui ont encore attendent d'émerger au plus haut niveau, et notamment en ce moment les porte-drapeaux du badminton français, c'est les frères Popov.
Oui.
Qui sont voilà, qui sont basés à Fos-sur-Mer. Voilà, une
Thomas
ville
junior, Popov.
Qui je sais qui est cher à ton cœur, Villet.
Ouais. Ah, ils sont sympas. Oui, voilà. Fos, il y a un bon centre de formation à l'époque.
Oui, donc c'est les frères Christo et Thomas junior. Alors, faut faire attention, Thomas junior c'est le grand frère et voilà, Christo c'est le plus jeune, et donc c'est les deux qui vont essayer de faire leur place, on va dire, dans le Gotha mondial. Ce qui va pas être simple, puisque dès le premier tour, ils vont jouer contre...
Et Kasparov aussi, non, à l'époque, non?
Ah oui, ça c'était...
Ouais, c'était plutôt aux échecs.
C'était un autre sport.
On a un prof avec
Popov, c'est Kasparov.
On a un prof avec nous. On a un prof, il est mort de rire. Ouais.
Voilà. Mais ouais. Donc,
ils font la paire, les deux.
Donc voilà, donc ils vont débuter mercredi. L'avantage, c'est que comme on est en année olympique, c'est un tournoi qui va être assez couvert. Voilà, RMC, l'équipe vont en parler. Donc c'est possible, même pour le public, qui pourra pas se déplacer sur place, de voir les matchs. Les finales seront dimanche, donc on rappelle, il y a le simple, donc hommes et femmes, il y a le double hommes et femmes, et il y a le double mixte, puisque c'est un sport qui peut jouer assez facilement en mixte. Donc voilà, et c'est en mixte qu'il y a les meilleures chances de qualification aux Jeux Olympiques, aussi bien pour la France. Je vais aller un peu de l'autre côté de la Méditerranée aussi pour l'Algérie. Il y a peut-être une paire algérienne qui pourrait se qualifier pour les. Qui sont originaires de Lyon.
Si n'est pas que.
Voilà, de la région lyonnaise, les frères et sœurs Mameri.
Ouais.
Donc voilà, ils seront peut-être au jeu l'été prochain. Donc voilà, donc dans tous Mameri. Les cas, ça commence
Grande
demain.
Famille.
Ces internationaux
Amazir,
de Paris.
Mameri.
Ouais, Mameri, Mazir, voilà.
Donc voilà, donc ces internationaux, ils débutent demain jusqu'à dimanche.
Rien à voir, mais bon, Augustin, il est là.
Ouais, donc je vous ferai un petit bilan lundi prochain, voilà, à l'issue du tournoi. Et en attendant, n'hésitez pas à suivre et à découvrir ce sport qui sera donc aux Jeux Olympiques l'été prochain.
Allez, merci HD. Justement, concernant la planète badminton et en route pour les JO 2024. Non, on n'a pas le temps là. Là, il y a Marseille qui nous attend. Mon ami Marseille qui nous attend avec un 5 buts à 1 face à Clermont-Ferrand. Là aussi, ça fait mal, gassé. Ça fait du bien. Pas pour tout le monde. Ouais. On nous dit ça. Ouais, sur les réseaux sociaux, on nous dit pas pour tout le monde, ça
Pourquoi
fait du bien à gasser. Ouais. Ben, je sais pas. Aussi de la jalousie, c'est chez Kip par exemple qui nous dit beaucoup de jalousie envers ce monsieur Gassé. Il n'y a pas que lui, mais bon, Marseille fait le travail en tout cas en ce
fait
moment.
Le travail.
Eh ouais. Marseille, ouais. Le renouveau aussi, un
ouais,
peu comme Lyon, mais bon, pas avec le même étendard et je veux dire le même effectif quoi, que les Lyonnais.
Exactement, c'est pas la même situation.
Ouais.
Après moi, par rapport à Gassé, en fait, au premier abord, je me suis dit mais il a quitté la Côte d'Ivoire. Bon, on l'a.
Il plutôt, a quitté, ça c'est sûr.
Il l'a quitté, on l'a éjecté, on va dire après comment parler. Et je me suis dit mais comment il va rebondir avec l'OM dans un club qui est en pleine reconstruction, pleine infusion. Donc je me suis dit bon bah il va exploser avec, mais non en fait. Mais franchement, de voir Gassé avec Printemps qui vient avec lui. Et pour redresser le club de l'OM, c'est une tâche très grande tâche à faire. Et franchement, il est en train de réussir pour l'instant convenablement. Mais ouais, je dirais quand même que bon, Gassé, c'est pas non plus le nom Gassé, il ressort dans le monde du football.
En 3 matchs, c'est... à peu près 12 buts, hein. C'est pas rien quand même.
Voilà, c'est pas rien.
Et puis au-delà de ça, il a libéré le mental de Marseille qui était.
On atteint un gros club face à Marseille.
Des joueurs qui étaient quand même assez entamés ces derniers mois. Ouais. Donc au-delà du jeu, je trouve que c'est assez quand même assez plaisant, en toute lucidité.
On peut pas négliger ça.
Si on est supporter ou pas. Mais je trouve qu'il a libéré mentalement.
Ouais.
Il est reparti de zéro avec les joueurs en disant voilà, moi je veux pas je veux pas savoir ce qui s'est passé avant. Moi on repart de zéro, et donc il a besoin de tout le monde, et c'est bien.
Et
c'est un entraîneur qui pousse les gens vers le haut.
Et voilà, et l'histoire Gattuso à l'OM, l'histoire, alors moi je pensais qu'avec Gattuso, avec son tempérament etc, qu'il allait vraiment les redresser, les mettre dans un certain comment dire, une certaine vibes, une
ça
certaine
l'a pas fait, Karim.
Ouais, ça l'a pas fait, et au final on voit qu'avec Gassé il est plus proche de ses joueurs, il est plus dans le management, il écoute ses joueurs, il discute avec
il
eux, et en fait voilà, l'entretien de Amin Harit, il a dit ouais complètement, c'est, je pense que c'est le jour et la nuit avec Gattuso et Jean-Luc Gattuso.
Sans qu'il critique non plus Gattuso.
Non, pas besoin.
Mais l'Olympique de Marseille avec
plus les matchs passent, plus sa gestion de Marseille, elle m'impressionne personnellement. Je le voyais pas du tout apte, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau.
Tout le monde le voyait pas, c'est ça.
Je le voyais pas du tout apte pour une équipe. Non, mais bien sûr, mais pour moi, il y avait trop de circonstances atténuantes à sa situation. Son passé antérieur avec la Côte d'Ivoire, la situation vraiment compliquée de Marseille. Mais quand tu reprends les mots d'Aubameyang en sortie de match, qui t'explique que tout l'effectif est apaisé, qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, tu te dis qu'ils ont affaire à une espèce de figure paternelle, ouais, qui vient apporter cette sérénité au sein d'un vestiaire.
D'accord.
Un vestiaire qui est quand même bien fourni, hein. On parle pas, oui, d'une équipe.
Il a un bon banc aussi.
Ouais. Un bon banc. Là, c'est vrai que c'est Clermont, ouais, mais bon, fallait les mettre les 5 buts. Hein.
C'était À chaque fois, il faut les mettre.
C'est pas une performance à atténuer, loin de là. Et comme tu l'as dit, Augustin, c'est dans le jeu aussi que c'est plaisant. C'est pas forcément.
Il voilà, y a pas que les buts.
Il y a pas que les buts. Il revient un système à 4, ce qui prouve qu'il a de très bonnes connaissances en tactique. C'est vraiment ce qui est le plus adapté à l'effectif de Marseille. On l'a dit plusieurs fois. La charnière centrale est super dure à composer parce qu'il n'y a pas forcément les bons joueurs au bon poste. Il a remis de bons pieds Jonathan Clauss, qui est pour moi un des joueurs cadres les plus importants de l'Olympique de Marseille, surtout dans le football moderne qu'on regarde aujourd'hui, avoir un espèce de latéral piston assez hybride qui va assez vite.
Ouais.
C'est quelque chose de vital pour ton équipe de foot. Tu l'as dit, Augustin, la profondeur de banc aussi, c'est si tu veux tenir toute une saison, tu n'as pas besoin uniquement d'11 gars, t'en faut 22, 23.
De surquoi avec la Coupe d'Europe?
Bien évidemment.
T'as besoin de cette,
c'est vrai
de
qu'on
cette
a que 18 équipes, mais avec toutes ces trêves, il ne faut pas oublier aussi toute la CAN. Marseille a été décimée pendant la CAN.
Ah oui, oui.
Pour un peu atténuer le bilan de Gattuso, c'est vrai que c'était un peu compliqué à la CAN, sachant que Marseille avait perdu 8 cadres. Mais là, avec le retour de tous ces cadres, et moi surtout, ce qui me fait plaisir dans la gestion Gasset, c'est l'état d'Illimani Ndiaye, qu'on pensait vraiment perdu. C'était un peu l'enfant prodige qui voulait rêver, qui rêvait de jouer pour Marseille, qui avait quelque chose à prouver, marquer un but au Vélodrome. Il a réalisé son rêve il y a quelques temps.
Il s'est libéré.
Et c'est vraiment de bon augure pour la fin de saison de Marseille. C'est pour ça que la comparaison avec Lyon est un peu plus compliquée. Là, on parle d'un club qui a un effectif très stable. Des postes assez remplis un peu partout et un entraîneur qui semble savoir ce qu'il fait. Je vois très mal la saison de Marseille mal se finir, et bien sûr sur le podium c'est pas.
Alors après il joue 10 matchs, ouais. Il joue 4 du haut tableau quand même.
Ouais, oui, bon, on verra.
Donc on verra le révélateur,
on verra, c'est le moment de prouver.
Voilà.
Vendredi, Karim, avant de donner la parole à
Jean-Luc Gasset continue dans cette démarche, mais qu'est-ce qu'on va lui dire à la fin de la saison en fait? Moi je me pose la question en fait, parce que j'entends Galtier, j'entends d'autres noms par rapport à Olympique de Marseille, mais là effectivement on est passé d'un père fouettard, d'un papy un peu autoritaire avec Gattuso, à quelqu'un en fait qui est humain en fait, et les joueurs ils ont besoin, on s'en rend pas compte, mais ça reste des humains quand même.
HD, justement, je pense propos que, de Karim,
en fait l'arrivée de Gasset, elle télescope la stratégie de Marseille depuis l'arrivée de Macourt et de Longoria. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont fait le choix d'aller chercher des entraîneurs internationaux en Espagne, latino-américains. Pourquoi? Parce que ça permet de faire venir d'autres joueurs sur ton mercato.
C'est-à-dire
que au lieu d'aller chercher des joueurs, ce qui pouvait être fait à d'autres époques, c'est-à-dire que tu vas chercher dans des clubs moyens de Ligue 1 avec des joueurs qui montent en puissance dans leur carrière, qui à un moment donné vont passer par l'Olympique de Marseille avant d'aller en Italie, en Angleterre, etc. Ce système-là où tu fais venir Villas-Boas, tu fais venir ce type d'entraîneur, permet après de donner la visibilité à Marseille sur le marché des transferts, notamment sur
des joueurs. C'est pas des entraîneurs qui ont ramené des noms, hein, ronflants. Hein.
Oui, mais je pense que c'était ça la logique derrière
Sanchez, c'est le réseau Longoria et ses ramifications.
Oui, mais justement, c'est-à-dire
que Villas-Boas, le pauvre, ça s'est télescopé avec Héros. Avec une ambiance du club qui était quand même pas terrible, la commanderie, on s'en souvient tous.
Oui.
Je pense que cette gestion-là a été à revoir, quoi.
Oui, mais bien sûr. Mais je pense que c'est une stratégie. Après, elle peut fonctionner, ne pas fonctionner. Mais ce que je veux dire, c'est que si Marseille n'avait pas été en crise, un coach comme Gasset, l'OM ne serait pas allé le chercher. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, Jean-Louis Gasset, dès son départ de Saint-Etienne, il aurait pu venir à Marseille. C'est-à-dire que ce qu'il avait fait à Saint-Etienne, un peu comme c'est la même chose avec Galtier, c'est-à-dire que t'as passé des paliers avec un club moyen de Ligue 1, c'est-à-dire qui joue l'Europe une fois sur cinq, qui gagne très peu de titres. Bon, la fois d'après, tu vas dans des clubs type Marseille, Lille,
Il a été très peu souvent numéro 1
Oui, mais justement à Saint-Etienne, il a été numéro 1. Ouais, c'est-à-dire voilà. que c'est pour mais moi c'était
à
ça.
À chaque fois, il était numéro 2. Avec Laurent Blanc, il a bien bossé à Bordeaux, à Paris, il était numéro 2. Donc c'était un excellent numéro 2. C'est pour ça qu'on lui faisait un procès en illégitimité d'être numéro 1.
Oui, mais justement à ce que je dis, c'est qu'à Saint-Etienne, il y a quelques années, ça a marché. Et pour moi, le fait qu'il arrive à Marseille que maintenant. C'est parce que la stratégie de Marseille n'allait pas vers des coachs comme Gasset. Ça, c'est pour dire que Gasset, pour moi, il est à sa place à l'OM. Le deuxième aspect, c'est que quand on regarde pour l'instant les matchs qui ont été gagnés par l'OM depuis l'arrivée de Gasset, c'est de mon point de vue des matchs qui auraient été gagnés même si Gattuso était resté.
Non, je pense pas.
Si.
Alors, je pense pas. C'est impossible à vérifier en même temps. C'est impossible à vérifier ce qu'on dit.
La
dynamique, là, 12 buts en 3 matchs, la spirale. Et on le voit sur le terrain, ils sont libérés, on le voit quand même sur le terrain qu'ils sont totalement libérés des charges mentales qu'il y a eu. Franchement, ils jouent de façon complètement décomplexée. Il y a des automatismes, il y a plus d'automatismes, il y a des beaux buts.
On parle de la lanterne.
Je pense que Gattuso, c'était le roi des matchs nuls, quoi.
Oui, mais certes, mais on parle de la lanterne rouge, Clermont. On parle d'une équipe qui actuellement est en difficulté.
Mais Marseille a perdu contre Metz.
Oui, bien sûr.
On a fait match nul contre Metz.
Mais ce que je veux dire, c'est, et même si tu prends le Shakhtar Donetsk, le 2-2 qu'ils ont fait en Allemagne au match aller, c'était un match où Marseille était devant. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, Gasset, on le jugera sur les matchs contre Reims, contre Lens, contre les, c'est-à-dire les adversaires directs et les matchs qui à un moment donné font que tu es en Europe ou pas. Si Gasset il prend mettons 10 points sur ces 5 matchs là, pour moi il y a un effet Gasset. Si sur ces matchs là,
il y a déjà un effet gassé. Irrémissiblement, il y a un effet gassé. C'est sans contexte. Il n'y a pas de contestation possible. Il y a un effet gassé. Il a libéré à minima les joueurs.
Je te rejoins. Je vois le pragmatisme de la vision d'HD sur cette situation et on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau.
Il a pas tort. Hein.
Il aurait pu perdre les 3 premiers matchs. On aurait dû avoir la même vision qu'à HD actuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le juger tout de suite. Il n'y a pas forcément de dégringolade. On aurait pu voir parce que Marseille, c'est quand même une équipe qui perdait contre des équipes qui prenaient des cartons rouges.
Ou des matchs nuls.
Ouais,
aussi.
Parce que c'est pas une vision. C'était un football, une autre forme de football. C'est-à-dire que tu perds contre quelqu'un de plus nul.
Et le jeu aussi.
C'était totalement inexistant.
Voilà.
Mais je reviens sur un point que tu as cité, Augustin, le plan mental plutôt. Oui. Que je vois un effet Gasset. Sur le plan tactique, comme on l'a dit, il revient juste à une défense à 4. Il n'invente pas l'eau chaude, mec.
Alors déjà, c'est l'eau tiède.
L'eau tiède, mais j'aime bien l'eau chaude.
Ouais, l'eau chaude aussi. Mais ceci dit, mais il a remis des éléments qui étaient un peu cornerisés dans le club et qu'il a remis sur le jeu. Il a refait confiance à des gens qui avaient moins de temps de jeu. Pardon, il n'y a pas que le mental. On le voit vis-à-vis du jeu depuis 3 matchs. Il n'y a plus d'automatisme.
Avec une équipe de ce calibre-là, tu ne peux pas te permettre de jouer un mauvais football.
Karim, avant la dernière pause.
Et sur ce que disaient les copains, Jean-Louis Gasset, il n'est jamais tout seul en fait. Donc là, il est avec Ghislain Printemps. Avant, Jean-Louis Gasset, c'était le second, l'assistant de M. Laurent Blanc.
Ouais.
Et effectivement, en fait, il connaît ça. Il connaît en fait. Et moi, ce que je trouve ça formidable chez Jean-Louis Gasset, c'est qu'il y a le management. Et c'est ça en fait que l'OM a besoin. Que des clubs comme l'OL aussi ont besoin, c'est du management. On parle à des joueurs.
Bienveillant.
Mais il faut qu'ils rentrent dans une identité du club après.
Ouais. Et c'est un méridional.
Comme Jean-Louis Gasset, comme Printemps, qui peuvent mettre tout ça en forme et l'activer.
À suivre de près. Merci Karim pour toutes ces réactions avec l'équipe de Tam Sport. On va faire une courte pause avant de revenir rapidement sur l'Olympique de Marseille. On a des appels aussi du côté du Standard et on terminera avec le Paris Saint-Germain.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission, avec un pas funky à la Moha, le duc justement de Paris qui est avec nous. Le 01 53 48 3000, allez, vous faites comme Ossine qui nous appelle depuis la cité phocéenne. On reste un peu sur Marseille avant de revenir sur la capitale française.
Time Sport, le mode pressing.
Bonsoir Ossine, comment ça va?
Bonsoir à tous, ça va très bien.
Ah ben voilà, aussi une Marseille gassée qui fait tant plaisir. Il vient tout droit de Marseille aussi. C'est un fervent auditeur. C'est aussi une Pékin Express. Je sais pas si tu connais. Il avait participé à Pékin Express.
Pékin Express. C'est bien lui.
C'est aussi une Pékin Express. Bien sûr, c'est un fervent auditeur de Beurre FM. Il est déjà venu avec nous dans ce studio avec Sébastien. Et justement, il appelle quelquefois parce qu'il est fan de l'Olympique de Marseille.
Il passe nous voir.
Aussi, ben il viendra te voir. Il y a pas de problème aussi. Faudra venir voir Karim et Augustin.
Exactement.
Aussi une Gassé qui fait tant plaisir à tout le Vélodrome et la ville.
Ouais. Écoutez, déjà, je voulais dire un point de vue, on va dire dans la globalité. Je pense que l'OM, à l'heure actuelle, c'est une équipe qui est juste au niveau de l'effectif. Hein, elle est juste. C'est une équipe qui, je pense pas, qui pourra jouer, on va dire, les trois premières places. C'est un début un petit peu catastrophique, faut dire ce qui est. Après, autant de changements d'entraîneur, c'est quelque chose qui est pas trop bon, qui est pas bon signe. Mais en règle générale, je pense que on n'est pas les seuls aussi dans cette configuration. Je pense que tu as Lyon, tu as même le Paris Saint-Germain. Hein. C'est pas ce qu'il fallait. Hein. Mais en soi, l'Olympique de Marseille, on va dire. Elle montre une place qui ne mérite pas d'avoir cette place là quoi.
Alors réaction avec Karim. J'aimerais vous poser une question.
Bonsoir Oussine. Bonsoir Oussine.
Bonsoir.
Alors moi j'avais une question. Est-ce que tu penses que c'est l'environnement marseillais qui fait que c'est difficile à instaurer quelque chose dans ce club? Est-ce que l'environnement marseillais joue un grand rôle dans les performances sportives de ce club pour toi?
C'est un point sensible que tu donnes. C'est vrai que l'atmosphère, on va dire en règle générale, l'Olympique de Marseille et le peuple marseillais en règle générale, c'est un fervent admirateur de son club. C'est-à-dire que les vrais Marseillais aiment le beau jeu et aiment les joueurs de Marseille, peu importe la difficulté qu'ils ont. Après, effectivement, il y a ce côté parallèle, on va dire, qui fait que il y a des personnes qui ne méritent pas d'être là, et ces gens-là influent dans le négatif.
Et du coup, Monsieur Longoria, est-ce que tu comprends les critiques à son égard ou tu les comprends pas?
Je les comprends parce que c'est difficile de si on n'a pas un fort caractère à l'Olympique de Marseille, on va être confronté à des gens qui font peur. Mais bon, en soi, ils sont pas méchants, mais ils veulent que l'OM gagne. Et donc, quand on fait un mauvais choix, on est confronté un petit peu à cette peur qui influe un petit peu dans les quartiers, quoi. Je veux dire. Mais en soi, c'est vrai. Hein, c'est vrai ce que tu dis. Si ce parasite-là, on l'efface. Je pense que l'Olympique de Marseille est capable d'amener des gros investisseurs qui pourraient faire changer la donne et permettre à l'Olympique de Marseille jouer les premiers rôles européens et vraiment y aller jusqu'à la gagne.
Ouais, Hossine, rapidement avec Moha pour terminer. Merci.
Hossine, je rejoins certains points dont tu as parlé, mais l'investissement pour moi c'est le cadet des problèmes de l'Olympique de Marseille. Quand tu vois une équipe comme Brest qui se classe deuxième au classement, c'est une équipe qui n'a ni les investissements ni les fonds de Marseille et encore moins la ferveur et le bassin footballistique d'une région comme Marseille. Faut juste remettre dans le contexte les choses un peu de manière factuelle. Quand t'as un enchaînement, et tu t'en as parlé toi-même, un enchaînement d'entraîneurs aussi récurrent, c'est impossible pour un effectif de se mettre en place. T'as une personne dans le club qui gère ça, une autre qui gère ça, une autre qui gère ça, et à la fin, l'entraîneur, il lui reste un peu des miettes. Ça a été le cas de Sampaoli, ça a été le cas de Tudor, que j'aimais beaucoup, moi, à Marseille. Mais à partir du moment où, si je peux me permettre, l'entraîneur n'a pas toutes les liasses, toutes les chaînes pour diriger son équipe, c'est impossible. Maintenant, c'est divisé entre Longoria, entre d'autres, entre un tel. Et l'entraîneur, à la fin, il se retrouve avec rien du tout. Alors, le contexte, il peut être difficile à Marseille. Ça, pour moi, encore une fois, c'est un mythe. Pour moi, il est plus simple à Marseille parce que il y a plus de talent footballistique, il y a plus de culture foot. Tout simplement.
Par rapport à qui? Versus quoi?
L'environnement
par rapport à quoi?
Par rapport à l'environnement.
Par rapport à l'environnement footballistique est beaucoup plus simple parce que t'as beaucoup plus de liens avec la culture football.
Oui, mais c'est des villes qui sont montrées. Il y a plus de pression.
Mais la pression, ça n'existe plus à ce stade quand t'es payé des milliers d'euros.
C'est vrai qu'un entraîneur à Marseille, il est pépère.
Personnellement, moi, je serais pépère avec toutes les armes que j'ai sur mon coude. Je te dis pas, il y a pire. Non, mais Augustin, faut se calmer sur Marseille, encore une fois. Il y a des gens qui vont à la guerre. Là, on parle d'un club de foot qui a un stade bondé jusqu'à la fin. Dans le vélodrome, il y a des mamies qui viennent chanter. Et il y a une culture foot qui est débordante de partout. Il faut arrêter de faire passer Marseille pour le tiers monde. Et c'est trop flippant d'aller là-bas. Non, il fait très beau là-bas.
On a une culture foot. Moi, je suis d'accord avec moi.
Il faut arrêter de dézinguer. À chaque fois, on dézingue Marseille. C'est flippant. Marseille, c'est flippant. Marseille, il fait super beau. Mais non, mais Augustin, imagine, t'es entraîneur. Tu travailles dans une ville où il fait beau toute l'année. T'as ton stade qui est plein à craquer. On a l'impression qu'il va s'écrouler sous le bruit et sous les supporters qui viennent. T'as un effectif cette saison, pour une fois, faut le dire, qui est de très bonne qualité. T'as toutes les armes pour faire une bonne saison.
T'as tout pour réussir, c'est ça qui veut dire.
Mais quand c'est incompatible avec la pression que met la population locale,
mais elle existe partout.
Envers les dirigeants.
Elle est pas pire à Marseille. Marseille, c'est pas.
Il y a une pression des dirigeants quand même.
Alors, Ossine, allez, on termine avec Ossine, parce qu'il y a le Paris Saint-Germain qui nous attend.
C'est vrai ce que dit l'invité. Mais juste par rapport à Brest. Brest, on va dire, c'est vrai, hein, dans le championnat français, il y a un moment donné, une équipe ou deux qui vont cartonner une année. Une année, ils vont faire un carton plein. Mais après, ils vont rechuter et ça se pérennise pas dans le temps. Et tout ça, c'est lié par une masse financière. Après, il y a les moyens humains, il y a tous ces moyens-là qui font que le club perdure dans le temps. Si on cite l'exemple de l'Olympique de Marseille, pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est bondé toute l'année. C'est bondé toute l'année et c'est des gens de l'Europe qui viennent. C'est des gens européens qui viennent voir loin, puisque je travaille là-bas.
Bien sûr.
Il y a des Anglais, des Suisses, des Brésiliens, des Italiens. Ils viennent tous de l'Europe, du monde entier, voir cette ferveur.
Merci.
Et c'est ça
aussi
qui fait que c'est un grand club. Et après, il y a des parasites qui font que ça ne peut plus avancer. Parce que c'est limité. Voilà,
Y a merci Ossine. Un grand merci Ossine d'avoir composé au 0153483000. Voilà, vous faites comme Ossine sur l'antenne de Beurre FM, justement. On avait Jouba qui disait Moha ce soir. Il est très pointu, hein, plus que Pékin Express. Et aussi qui nous dit en même temps que Ossine est très très bon. Et oui, il nous fait voyager, manger des panisses. Voilà, ça c'est la dédicace de Jouba qui est toujours à l'écoute. Des fois il nous appelle, des fois il est à l'écoute. On va savoir pourquoi. Probabilité de victoire de la Real Sociedad, 37% selon les bookmakers. Cœurs européens, hein, non pas que français. Prolongation à 28% et 35% de chances de victoire pour le Paris Saint-Germain. Ça fera pas plaisir à Solal qui a relevé rapidement sa tête tel un très très bon réalisateur. Le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad demain 21h en Espagne. Ça va être assez chaud pour les Parisiens. C'est Luis Enrique qui nous prévient. On va savoir Mbappé sur le banc ou sur le 11 type. Augustin.
Oh, il sera peut-être pas convoqué.
Ah, ouais, bah là, c'est assez chaud.
J'espère plaisanter. Mais non, on l'a pas mis dans de bons rails, là, Mbappé, pour sa confiance pour les restes du championnat, ni pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est l'institution Paris Saint-Germain qui va s'en retrouver perdante de tout ce qui se passe.
Exactement.
Parce que si même Mbappé n'est même pas sûr d'être là l'année prochaine, Luis Enrique non plus.
Ouais.
On ne sait pas si Luis Enrique y sera.
Elle est où, le lien de cause à effet?
Non, non, mais c'est-à-dire que je pense que Luis Enrique qui braque Mbappé, qui le fait partir à la mi-temps, juste à la 60e minute contre Rennes, tout ça, je pense que c'est pas serein tout ça.
Ouais.
Et je pense que tu mets pas dans de bonnes conditions Mbappé pour sa confiance et pour qu'il fasse un bon finish de fin d'année.
Quand tu marques 3 buts en finale de Coupe du Monde.
Ouais, ça c'est incroyable.
Je pense que Kylian, on pourrait vraiment le matraquer psychologiquement pendant un an d'affilée, il pourra quand même lâcher une très grosse performance. On parle pas d'un athlète de pacotille qui joue que le dimanche. Non, on parle vraiment d'un des plus grands athlètes de l'histoire de la France. Donc pour moi, une question de confiance à ce stade-là, un mec comme ça, tu peux même pas en douter qu'il en aura. Après, je vois pas le rapport avec Luis Enrique, parce que Luis Enrique, pourquoi il va partir l'année prochaine s'il fait, si Mbappé part?
Non, je parle que non. Luis Enrique met sur le banc Mbappé à la 45e minute, à la 60e minute l'autre fois. Il y a un vrai problème entre les deux. Et c'est l'institution du club qui trinque, là.
Je pense pas que ce soit le cas. Dans tous les cas, ils se sont rencontrés, selon nos confrères de l'équipe, ils se sont rencontrés, ils ont discuté de manière constructive.
Ouais.
Du côté du clan Mbappé, ils veulent même pas de cette poudre-là, de ces problèmes-là. C'est même pas quelque chose qu'ils envient, sachant qu'ils veulent vraiment avoir un départ en douceur. Et si t'es Kylian Mbappé, tu veux pas partir en mercenaire. Non, d'accord. Je quitte le club comme un traître.
Quand il y a un journaliste qui dit à Luis Enrique, Mbappé sur le terrain ou pas, bah oui ou non quoi.
Bah oui, puisque c'est pas Zidane.
Bah ouais, mais je veux dire, c'est le match retour de Real Sociedad.
T'es en train de le dire, c'est le match retour de la Real Sociedad. C'est pas la finale face à l'Italie en 2006. C'est pas Zidane que t'enlèves de la fiche de match. Absolument pas. Mais à ce moment-là, c'est même pas une question d'humain ou de confiance. C'est une question de jeu. Il est pas bon dans le jeu ces trois derniers matchs. Ça enlève pas en lui le grand joueur qu'il est.
Il est pas bon dans le jeu.
Mais il est pas en danger dans les trois derniers matchs, tout simplement.
Les autres joueurs non plus.
Oui, mais quand tu monopolises le jeu et que tu subis des prises à deux pendant tout un match et que tu ne fais rien pour éliminer les adversaires,
donc
toi,
il faut
t'es obligé d'avoir d'autres options.
Alors, d'accord. Ouais, Karim, avant de retrouver HD, on t'écoute. Moi, en fait, Karim, PSG.
Ouais, c'est quelle image le PSG veut donner de cette histoire, en fait? Quelle image, même
grand club d'Europe,
de notre pays, la France, de la Ligue 1, mais quelle image on donne? En fait, il y a des choses où on s'en rend pas compte. Il y a qu'en France où ça se passe comme ça, en fait. Faut vraiment que les gens se le disent. Ouais. Faut qu'ils se documentent. Faut qu'ils refassent des recherches. Il y a qu'en France où on voit ce type de situation.
Ouais.
Kylian Mbappé, bien sûr, c'est pas Zidane, il a pas inventé l'eau tiède, ni l'eau chaude, ni l'eau froide. Voilà. Mais Kylian Mbappé, il faut quand même le respecter, en fait.
Ben oui.
Moi, je trouve ça incroyable que ce club, l'institution du Paris Saint-Germain, ils auraient pu, depuis des années, sur une multitude de joueurs, appliquer leur politique, leur règlement. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avant, en fait?
Parce que c'était pas le même entraîneur.
Oui, bien sûr, j'entends, Mohamed. J'entends. Mais pourquoi sur Kylian Mbappé, un titi parisien, un petit qui vient de Bondy, l'excellence française et la réussite française?
Il y en a eu d'autres quand même. Oui, intéressant. Solal, rapide.
Non, mais on retrouve l'explication, Karim.
Abder de Bruxelles aussi.
Je vous trouve un peu critique envers un choix qui est juste humain et normal de
la part
et du club et du parti Luis Enrique, qui se justifie en disant juste on s'apprête à perdre la clé la plus chère du trousseau. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu vas plus pouvoir utiliser cette clé, faudra pas s'étonner que t'es pas
attends,
j'ai pas fini. Prévu justement cette porte de sortie. C'est pareil pour tout. Moi, si aujourd'hui je vais devoir prendre une nouvelle habitude, que ce soit me lever tôt le matin, ça va se préparer 6 mois à l'avance, 5 mois à l'avance, 4 mois à l'avance, et peu à peu je vais m'habituer à faire 101 heures de plus que je dormais, que je restais éveillé le soir,
comme ça, c'est vrai.
Ou sur des trucs comme ça. Donc je le comprends totalement. Il n'y a pas à aller voir.
Il le comprend totalement.
Il n'y a pas 10% des joueurs de Ligue 1 qui, quand ils sont changés avant la mi-temps. Et, pardon, mais 45e minute, tu sors Mbappé.
Bien sûr.
C'est quand même un marqueur.
Bien sûr.
Puis là, juste après, je laisse la parole à HD. Excuse-moi,
alors,
HD.
On a un auditeur aussi de Bruxelles.
Pourquoi faire ça sur Kylian Mbappé? Et pourquoi j'entends ce que dit Solal, hein. Ça se respecte, ça s'entend. Mais on prépare la saison qui est actuellement là devant nos yeux.
Ouais.
Pourquoi nous parler et nous mettre une excuse pour dire oui, on va préparer la saison prochaine quand il sera pas là?
Ouais,
mais mince alors, on veut que demain il réalise un grand match. Mais on veut que le Paris Saint-Germain réalise une grande saison en Ligue des Champions.
Aussi.
Et c'est ça qu'on veut. Donc arrêtez de nous dire on prépare ça, on prépare ça, on prépare ci. Non, occupons-nous du présent. Merci.
Saint-Germain HD. On va retrouver Abder aussi.
Non, mais je pense qu'il y a deux débats différents. Moi, sur le premier aspect, qui est l'aspect sportif sur le terrain, je suis plutôt d'accord avec Moha, c'est-à-dire que sur les derniers matchs, Mbappé n'a pas forcément été à son meilleur niveau. Même le match aller contre la Real Sociedad, le joueur qui est décisif, finalement, c'est plus Ousmane Dembélé que Kylian Mbappé sur ce match-là, dans la capacité justement à déstabiliser l'équipe adverse, à faire des différences. Mbappé, il vient finir les actions, mais celui qui est le déclencheur, c'était plutôt Dembélé, alors que Mbappé, on l'attend aussi dans ce registre-là. Et il n'a pas forcément réussi à le faire. Vous regardez le match contre Monaco, c'est un match qui est relativement extrêmement pauvre. Ouais. Et pour moi, je pense que quand on est le PSG, qu'on a 12 points d'avance sur le deuxième, on peut se permettre de dire, bon bah voilà, en gros le gamin il est pas dans un grand jour. On le met de côté sur ce match-là et voilà, il se met à bloc
donc
pour la Real.
Il n'y a rien à voir avec Mbappé et Luis Enrique.
Ce que j'essaie de dire, c'est que sportivement, alors, ce qu'a fait Luis Enrique, ça peut s'expliquer. Ouais. Et je le dis d'autant plus que le PSG a une capacité à recycler des coachs qui gagnent la Ligue des Champions ailleurs, mais qui ne la gagnent pas avec le PSG. Donc il faut faire attention. D'autant que Luis Enrique, depuis qu'il est arrivé au PSG, à chaque fois qu'on lui pose une question sur ses choix, il ne répond pas. C'est à nous d'avoir l'intelligence de comprendre les choix que fait Luis Enrique, même quand il ne les explique pas.
Alors Abder depuis Bruxelles, bonsoir Abder.
Pas les journalistes.
Bonsoir tout le monde.
On vous écoute, hein. Bonsoir. Sur le PSG.
Alors, ouais, sur le PSG et sur Mbappé en particulier, moi je trouve que c'est scandaleux le traitement qu'on afflige à Mbappé en fait. Ce que fait le PSG actuellement, pour moi, c'est indigne d'un grand club. Je ne vois pas en fait, dans aucun grand club, on traite nos stars de cette manière-là, les stars de cette manière-là en fait. Mbappé, c'est une star, que ce soit dans la vie publique, que ce soit surtout dans le foot, sportivement. Voilà, il a à chaque fois montré qu'il était décisif. Parfois même, c'est lui qui sauvait le PSG à lui tout seul. Et aujourd'hui, qu'on le traite de cette manière-là, qu'on le sorte à la mi-temps ou à la 60e, je trouve ça, en fait, petit. Et j'ai l'impression que c'est plus une histoire d'ego qu'autre chose, en fait. Quand on voit, en fait, quand on regarde par le passé, aucun joueur n'a été libre de partir quand il le souhaitait du PSG. Ils maintiennent, en fait. Le PSG n'aime pas perdre ses joueurs, tout simplement. C'était Neymar, quand il voulait retourner à Barcelone, on lui a dit non. Ouais. Et le PSG n'était vraiment pas content contre Neymar. Aussi, quand c'était Verratti aussi qui avait une offre pour rejoindre Barcelone.
Ouais, à chaque fois qu'il y a eu des départs,
Voilà, exactement. Même Cavani. J'ai l'impression que c'est plus une histoire d'ego qu'autre chose, en fait. Le PSG ne veut pas.
Intéressant. Abder, intéressant. On manque de temps, mais c'est vraiment très intéressant. On essaiera de vous reprendre via téléphone, hein, Abder, depuis Bruxelles. Ça fait plaisir, en tout cas, d'être avec nous. Vraiment, vraiment, une très belle soirée, Abder. Un grand merci à vous, les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. Un grand merci pour sa première à Karim. Sans oublier HD.
Merci, les amis.
Merci à Moha. Merci. Et merci à toi, Augustin. Et sans plus tarder, vous allez retrouver Vanessa, 21h, 23h en compagnie de Solal à la réalisation. Bravo à toi, Solal. À demain. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.